plus quand vous pensez Hugo et au Liberty, j'ai tout de suite pensé Napoléon. Et je ne sais pas dans quel enfer je me suis embarqué parce que ce n'est pas vraiment un sujet très très facile. Mais bon, il y a pas mal de citations ici ou là. Et... Alors je commencerai par celle-là qui est tirée d'une phrase au Liberty, d'une lettre à l'acteur Victor Francen qui a en 1931 incarné Napoléon dans un film de Tourjansky. Et donc il envoie une lettre pour lui demander d'être le dédicataire d'un poème de l'Empire et la Trappe, donc le premier recueil de Liberty. Et j'ai repris cette lettre, cette phrase. Tous les Balzac, tous les Hugo rêvent d'être Napoléon. Napoléon, Hugo, Liberty, j'aborde là une triade incontournable. En effet, il y a une réelle filiation des images de Napoléon et de Victor Hugo dans l'inspiration de Liberty. Dès l'enfance, le poète antibois est nourri de l'empereur, et dès l'école, Victor Hugo devient l'image même de la poésie. Alors, dans Victor Hugo, on le sait, apparaît Napoléon, Bounaberdi dans Les Orientales, dans Souvenirs d'enfance, dans Marion Delorme, dans Les Chants du Crépuscule, titré l'empereur dans toute la lyre, jusqu'à la dernière gerbe, et aussi dans Les Misérables et encore dans William Shakespeare. Pour Liberty, il en est de même. Je cite quelques jalons comme cela. Son premier recueil en 1930 s'intitule « L'Empire et la Trappe ». Sa première pièce de théâtre en 1936, « L'Empelour », qui est le mot occitan pour « empereur ». Un poème est très simplement titré « Napoléon » dans le recueil des tonnes de semences en 1941. Et enfin, une sorte de journal en 1950 est précisément titré « 100 jours ». C'est peut dire que chez Liberty, comme chez Hugo, Napoléon est une source d'inspiration permanente. Liberty est tout imprégné de l'image de Napoléon. Je cite une lettre à Jean Paulhan de 1936. « Dans cette maison, Napoléon était partout. » Le même mot apparaît chez Victor Hugo dans Les Orientales. « Toujours lui, lui partout, ou brûlante ou glacée, son image est sans cesse ébranle ma pensée. » J'ai essayé de bâtir mon petit propos en trois parties. Dans la première, je verrai comment l'image de Napoléon exerce son emprise sur nos deux poètes dès leur naissance et pendant leur jeunesse. Dans une deuxième partie, nous verrons que cette image devient un mythe qui se fige alors dans l'histoire, au point de constituer une petite mythologie qui touchera peut-être même à la mystique. Et enfin, pour terminer, on verra que ce personnage devient une source d'inspiration poétique. Donc Napoléon durant l'enfance et la jeunesse. Nos deux poètes placent toute leur vie sous l'image de Napoléon, depuis la naissance jusqu'à l'adolescence. Chacun d'eux, dans un même mouvement, inscrit sa destinée à l'image de celle du grand homme. D'abord la naissance. Bon, je rappelle ce vers fameux des feuilles d'automne. Ce siècle avait 2 ans. Rome remplaçait Sparte. Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte. Et du premier consul déjà en main droit, le front de l'empereur brisait le masque étroit. Alors, dans Besançon, vieille ville espagnole, jetée comme la graine au grain de l'air qui vole, naquit d'un sang breton et lorrain à la fois, un enfant sans couleur, sans regard, sans voix. Je ne me risquerai pas à l'analyse de ce poème si connu, me contentant d'éclairer l'association que fait Hugo avec sa propre naissance, et plus loin ce ton un peu misérabiliste sur lui-même, si débile qu'il fut, ainsi qu'une chimère, abandonné de tous, excepté de sa mère, et que son couple ployé comme un frêle roseau fit faire en même temps sa bière et son berceau, cet enfant que la vie effaçait de son livre et qui n'avait pas même un lendemain à vivre, c'est moi. Le contraste est fort entre la puissance de Bonaparte et l'enfant chétif, comme si cette comparaison tendait à donner au nourrisson le lait de la vigueur, de la santé et de la gloire à venir. Et il y a un domaine de chez Liberty qui naît dans une maison toute empreinte d'images de l'Empire, comme il le raconte dans une lettre à Jean Paulhan. Par exemple, vous savez que j'ai toujours su, même tout petit, rue du Saint-Esprit, à Antibes, Alpes-Maritimes, où je suis né, qu'avec moi un grand homme était né. Peinte était la maison d'aigles et d'hirondelles. Liberty est poète dès sa naissance et il doit cette marque à l'image de Napoléon. Comme Hugo qui aurait affirmé qu'il serait Chateaubriand ou rien, Liberty aurait pu dire Hugo ou rien. Tous deux affirment leur dimension prophétique à bien des égards orientés, nourris par le mythe napoléonien. et l'image du héros socialiste les poursuit durant leur enfance. Audiberti se souvient de certains jeux, celui qu'il appelle le jugement dernier, dans une scène où apparaît l'empereur, et qu'il raconte dans une lettre encore à Jean Paulhan. Ceux qui n'avaient mérité que le purgatoire s'en allaient dans l'arrière-cuisine, pleine de jeux de cartes, de maréchaux de l'Empire, ébauchés sur des toiles de dolmans de vieille guerre, avec 75 boutons et toute une rance odeur d'âme dévote et d'empereur Napoléon. L'image n'est pas très positive, les tableaux sont ébauchés et la dévotion a une odeur rance. Nous sommes dans l'arrière-cuisine, lieu relayé, ce qui contribue à rendre une image négative de la présence de Napoléon. D'une façon parallèle à Victor Hugo, Napoléon est une image dont on se sert pour diminuer la sienne propre, ce qui, d'une certaine manière, produit l'effet contraire en rehaussant l'image du poète à la hauteur de celle du chef d'État. De même, Napoléon accompagne Victor Hugo dans sa jeunesse. On le voit jouer avec ses frères, comme le rapporte Adèle Hugo. Livrés à eux-mêmes, les enfants organisaient de petites représentations théâtrales dont les héros étaient Duroc, l'âne ou Murat. Victor composait des scènes guerrières à partir des victoires d'Austerlitz ou de Marengo. Il allait même quelquefois jusqu'à s'appeler Napoléon. Et cet autre souvenir d'enfance dans les feuilles d'automne. Dans une grande fête, un jour au Panthéon, j'avais 7 ans, je vis passer Napoléon. Même si cette rencontre est fictive, comme le pense Jean-Marc Ovas, elle permet à Hugo d'ancrer sa jeunesse sous le signe de Napoléon et lui-même de se sentir en accord avec le peuple. L'enfant Audiberti rêve aussi de gloire militaire. On le voit dans un poème intitulé « Napoléon » dans « Toujours 1943 ». Tout viendra, comme avant pour que peine le monde, carène dans le port, douce langue d'Ulysse, et, vers Saint-Gian, figuier que leurs mains pudibondent, tigre d'ombre, l'enfant que quémande Austerlitz. Il faut lire Jean Lépin derrière Saint-Gian, Jean Lépin à côté d'Antibes. Audiberti associe le débarquement de 1815 à un retour en arrière, alors qu'il rêve de la gloire légendaire de Napoléon. Et je ne peux résister à citer ce poème de Race des Hommes 1941, des tonnes de semences, pardon, qui s'intitule Bagnolet. Ces maisons, ces arbres, ce zingue, Bagnolet. C'est pas beau. Ça parle. Ça dit, je suis laid. Je suis laid. Tant pire. On est comme on est. Autre part, l'Empire. Ici, Bagnolet. Audiberti oppose la misère de la banlieue à la gloire de l'Empire, qu'il rejette cependant dans un ailleurs vague, comme pour s'en détacher. Il demeure cependant cette référence incontournable. Donc chez Hugo, comme chez Audiberti, Napoléon construit l'imaginaire de l'enfance. Ses souvenirs, vrai ou faux, inscrivent Napoléon comme le faire-valoir des deux futurs poètes, chacun met en place une histoire dans laquelle leur vie, au départ malingre et malheureuse, sera sauvée par l'image du grand homme. Et bientôt, cette histoire va devenir mythique. Dans ma deuxième partie. Bien ancré dans l'histoire des enfants, l'image de Napoléon se fige dans le passé. Le personnage va devenir un mythe et même rapidement un élément de spiritualité. D'abord, l'image mythique. Le propre de l'histoire, c'est qu'elle a une fin. Napoléon n'échappe pas à la règle. Du reste, nos deux poètes l'apprécient comme telle et ne souhaitent pas qu'elle se renouvelle. Deux personnages de la pièce Lampelour le disent. Dieu garde que quelqu'un le touche. Et qu'il reste dans ma maison et dans la maison de mon âme. Et que mes murs le retiennent, mais surtout, qu'il le retienne de s'en aller pour se lever au-dessus des campagnes et de la capitale. C'est ainsi que le personnage historique accède à la mythologie. De réel, il devient iconique. Et Victor Hugo va plus loin dans Les Misérables. Il demande la disparition du personnage historique afin qu'il devienne ce mythe. Je cite Les Misérables, « Ce jour-là, la perspective du genre humain a changé. Waterloo, c'est le gond du XIXe siècle. La disparition du grand homme était nécessaire à l'avènement du grand siècle. » Et dans William Shakespeare, il agrandit les perspectives à d'autres héros. Ceux-là, nous les avons rappelés tout à l'heure, les vraiment grands parmi eux se nomment Cyrus, Sésostris, Alexandre, Hannibal, César, Charlemagne, Napoléon. Et dans la mesure que nous avons dite, nous les admirons. Mais nous les admirons à condition de disparition. Oliberti, comme Victor Hugo, assure que si l'on aime Napoléon, on ne souhaite pas qu'il revienne. Il doit demeurer un mythe. Ce mythe se place au-dessus de considérations autres, selon Oliberti, comme il le dit dans une lettre à Jean-Paul Ans encore. Malgré ces symboles, aucun de nous jamais n'eut une notion, la moindre notion, d'impérialisme politique, de dogme catholique. Et dans cette même lettre, il insiste. Et je suis sûr que personne n'aurait levé le doigt pour l'instauration ou la restauration d'un régime bonapartiste. Ces maçons, le père d'Oliberti était maçon, ces maçons étaient transcendants à leurs idoles. Ils n'auraient peut-être pas ouvert leurs portes au Christ, ni à l'empereur. Effectivement, Antibes a refusé le retour à l'île d'Elbe, et nous voyons ici déjà Napoléon comparé au Christ. Ce qui est valable pour les ancêtres d'Oliberti ne l'est peut-être pas pour lui-même. Bien ancré dans le passé, bien figé, l'image de Napoléon devient une icône de la religion. Il imagine cette scène dans 100 jours. L'empereur est assis à une table où brille une lampe et où il y a une assiette. Il mange donc. Dès l'abord, il semble surpris qu'une image, qu'un symbole consente à vivre comme tout à chacun. Il poursuit cette évocation. Tout le monde se tait. Chaque parole, même qui sembla de peu de valeur, lorsque par un grand homme elle est prononcée ou perçue, elle sort du flot, elle prend date. Quelques-uns des assistants comprennent que les détails et les instants où insiste le caprice interrogateur et journaliste de Napoléon agiront en quelque manière sur le déroulement ultérieur du film. Dans ce récit fictif, Oliberti accentue le mythe de Napoléon par les exclamations au style indirect libre du fantassin. Il illustre cette propension en l'associant dans un bel anachronisme au cinéma, et on ne serait pas loin d'y voir une représentation de la scène de Léonard de Vinci où Napoléon devient un nouveau Christ. Comme Hugo, Oliberti souhaite que Napoléon demeure une image, un mythe, et rapidement cette icône, et nous employons ce terme dans son exception religieuse, se place le panthéon catholique. En effet, devenu mythe, Napoléon accède à la spiritualité dans l'esprit de nos deux poètes. Pour Oliberti, Napoléon devient un personnage mythologique, un mythe domestique, un esprit familier et spontané, notre petit dieu personnel glorieux et brun. La couleur brun ajoute au caractère familier, et Napoléon, petit dieu, devient le Christ enfant tel qu'il figure dans les tableaux de la Renaissance. Placé comme le Christ, sinon le Christ lui-même, Napoléon est la force par quoi tout commence, partant il devient chef de religion. Dans 100 jours, Oliberti fait en effet de Napoléon un Christ qui, s'il doit réapparaître, que ce soit ressuscité. Et Napoléon lui-même s'identifier au martyr du Christ, comme le rapporte Ascazès dans le mémorial de Sainte-Hélène. L'infortune seule manquait à ma renommée. J'ai porté la couronne impériale de France, la couronne de fer de l'Italie. Et maintenant, l'Angleterre m'en a donné une autre plus grande encore et plus glorieuse, celle portée par le sauveur du monde, une couronne d'épines. Oliberti connaissait cette phrase à laquelle il apporte une nuance dans une lettre à Jean-Paul Ans. Napoléon et la Sainte Vierge. Un monarque et une déesse ? Allons donc, l'esprit paternel et l'esprit maternel. Enfin, c'est ainsi que je le comprenais. Oliberti parle de la Vierge comme une déesse et non comme la mère du Christ, ce qui l'arrange avec Napoléon dans un domaine familier, domestique, une mythologie personnelle. On retrouve la dualité hugolienne partagée entre la mère catholique et le père napoléonien qui contribue à faire de l'empereur une icône religieuse. Victor Hugo prononce ainsi son acte de foi dans les chants de crépuscule, car nous t'avons pour Dieu sans t'avoir eu pour maître. Hugo, au présent, il identifie Napoléon à la divinité, tout en rejetant l'empereur dans le passé. Dans le poème L'Empereur, tiré de toute la lyre, Victor Hugo fait parler l'empereur qui s'identifie à Dieu. Le Dieu d'en haut a ses tonnerres, moi, Dieu d'en bas, j'ai mes canons. Et dans toute la gerbe, il le répète cette fois en son nom propre, Il faut que le poète, en sa dignité sainte, comme un dieu boit le fiel, sache boire l'absinthe. Et Audiberti de même fait de Napoléon un dieu dans la forteresse de la Marmara. Il recueille posthume d'articles sur la poésie et les poètes. Le Napoléon d'Égypte, le Napoléon d'Austerlitz, l'homme soleil, l'homme dieu. Il en fait même un saint dans mon oreille, un roman autobiographique à peu près. Avoir un dieu et lui fermer sa porte quand il se présente, c'est le forcer à devenir un saint. À ce stade de divinité, Audiberti et Victor Hugo vont faire de Napoléon un élément du rite catholique. Audiberti l'introduit jusque dans la prière, dans 100 jours. Au nom du Père, de Napoléon et du Phare. Napoléon apparaît ainsi comme le Fils de Dieu et le Saint-Esprit en phare. Napoléon devient le Christ, lui-même, dans l'esprit d'Audiberti, dans ses vers tirés de l'Empire et la Trappe. Si l'empereur existe, il faut que je le trouve et qu'à son pain je goûte et boive de son vin. Dans l'Empelure, le boucher et le prêtre, qui sont donc les personnages de cette pièce de théâtre, entament une danse et chantent une chanson qui fait de Napoléon un nouveau Jésus. Dans une île, il y a un homme. Il naît de lui-même. Sur les eaux, il avance. Il avance vers la France. D'image mythique, Napoléon, dans l'esprit de nos deux poètes, est devenu une icône religieuse. Il devient le Christ lui-même, soit Dieu. Et c'est ce Dieu qui va inspirer les poètes. J'aborde ma troisième partie, et dernière. Le rêve des poètes. Napoléon comme inspirateur. Cette religion que nous avons vue, Napoléon devient le rêve du poète. Victor Hugo n'est pas loin de le penser non plus qu'il est le Napoléon de la poésie, dans la même démarche de création. Cette création ressortant du domaine divin. Audiberti, en tant que poète, le dit à Jean Paulhan. Un type, un matin, s'éveille et dit « J'achèverai l'œuvre de Dieu et celle de Napoléon. » Cette citation est tirée d'une lettre et non d'une œuvre de fiction. Audiberti s'adresse à Jean Paulhan. Elle a donc valeur de preuve, même si l'auteur l'emploie avec le léger biais de la fausse citation, un type dit. Outre l'énormité du propos, on le voit chez Audiberti, l'image de Napoléon est associée à la mystique et à l'écriture. Hugo, de même, affirme dans Louis, les Orientales, « Il verse à mon esprit le souffle créateur. Je tremble, et dans ma bouche abondent les paroles, quand son nom gigantesque, entouré d'auréoles, se dresse dans mon verre de toute sa hauteur. » Le mot « souffle » s'apparente au souffle de Dieu. Quand l'Esprit Saint descend sur le poète, Napoléon est ainsi déifié et auréolé comme les saints le sont dans l'iconographie. Audiberti fait de même qui place dans 100 jours la relation entre le héros et le prophète sur le ton de la confidence. Les prophètes et directeurs de l'humanité, vous me direz, sont des hommes de lettres, par la plume ou par la bouche. Moïse, Jésus, très gros tirage. Karl Marx, Napoléon. La religion et la philosophie font jeu égal avec l'Empire. Aussi, Audiberti se voit en Napoléon poète. Le ton de la confidence, vous me direz, laisse entendre la distance, une sorte d'ironie qui cache mal une réelle ambition. Napoléon devient la référence incontournable, tant sur le plan politique que sur le plan littéraire. Ainsi pour Hugo, dans le poème « À la colonne ». Oh, va, nous te ferons de belles funérailles. Nous aurons bien aussi peut-être nos batailles. Nous en embrasserons ton cercueil respecté. Nous y convierons tout, Europe, Afrique, Asie. Et nous t'amènerons la jeune poésie, chantant la jeune liberté. Victor Hugo se veut le Napoléon de la nouvelle poésie. Comme lui, il devra batailler pour rénover la littérature. Et dans sa préface à Marion Delorme, il dresse le parallèle avec Shakespeare. Pourquoi maintenant ne viendrait-il pas un poète qui serait à Shakespeare ce que Napoléon est à Charlemagne ? Sous-entendu, le temps est venu pour Victor Hugo d'être le Shakespeare français. Audiberti fait de même dans l'Empire et la Trappe, sans pour autant l'époque a changé, s'ériger en chef d'école. Il se taisait, en tout temps, sous la tente enveloppant la sombre idole que je fus, où l'âme éparse des harnais et des affûts, des camps noyés d'ortures et de rêves, des rixes prodigieuses s'amassaient sous mes yeux fixes de poètes doués pour l'acte affreusement. Dans ce poème assez obscur, on entend cependant cette liaison entre la poésie et l'action qu'incarne Napoléon. Il avait déjà dit dans son premier poème, quand il écrit à Victor Francène, que j'ai rappelé dans l'exergue, « Je compte vous dédier celui de mes poèmes où je tâche d'exprimer ce qu'a pu être la dernière minute de Napoléon, poète douloureusement durci par une action terrestre magnifique. » Audiberti place à côté du nom de Napoléon sa qualité de poète, poète certes matiné de dirigeant politique, mais poète tout de même, et qui a su composer avec le réel, qui a pu faire que la poésie soit la sœur du rêve. Aussi, tout naturellement, Audiberti se compare à Napoléon lorsqu'il revient à Antibes pour écrire « Cent jours ». Je commence un livre dont j'ignore le déroulement, mais je sais, comme Napoléon, en débarquant sur notre rivage le 1er mars 1815, savait que, de toute façon, il y aurait dans les temps tout de suite à venir des blessés, des mariages, de la digestion et des champs sous la lune, sans compter le chevaux, pâtissier, poil, sueur. Audiberti associe l'expérience littéraire à l'expérience militaire en lien avec Napoléon. Il oscille sans cesse entre le grandiose et le dérisoire. Loin de démythifier le personnage, comme le Christ, tout ce qu'il touche devient sacré. Napoléon, que ce soit chez Audiberti ou Victor Hugo, est la figure même du poète. Et comme Napoléon est divinisé, on l'a vu, le poète reçoit aussi l'onction céleste. Hugo le dit dans William Shakespeare, « On appelle à l'aide les poètes, les prophètes, les philosophes, les inspirés, les penseurs. La poésie est plus que jamais prophétie. » Victor Hugo fait du poète un homme directement en lien avec le divin. Il englobe la poésie tout entière dans cette conception. On le lit dans le journal d'Alda Hugo. « Je vis dans l'exil. Là, je perds le caractère de l'homme pour prendre celui de l'apôtre et du prêtre. Je suis prêtre. L'homme a besoin de religion. L'homme a aussi besoin de Dieu. Et je le dis hautement, chaque soir, je prie. » Victor Hugo se fait le serviteur de la poésie, qu'il érige comme une religion dont il est le porte-parole, se faisant l'intermédiaire de Dieu. Et Audiberti signe ses lettres à Jean-Paul Ambe par ce néologisme qu'on a déjà entendu, bien affectueusement, « Tontéope ». Nouveau palindrome qui unit Dieu et le poète. Et Jean-Paul Ambe lui répond sur le même mode. « Mais enfin, ce qui manque terriblement à la France, c'est le sacré. C'est de savoir ce qu'est le sacré. Et qui diable le dira ? Sinon vous. » Victor Hugo et Audiberti ont à peu près la même conception de la poésie qu'ils placent comme étant d'essence divine, étant entendu que cette image de la poésie est portée par Napoléon, un Napoléon divinisé, et qui devient ainsi la figure même du poète. Mais Audiberti vient après Victor Hugo et bien après Napoléon. Cela a pour conséquence qu'il ne peut dissocier ces deux noms qu'il analyse Victor Hugo dans ses rapports avec Napoléon. Nous allons donc terminer, voir comment l'image de Napoléon chez Audiberti passe nécessairement par Victor Hugo. Audiberti, enfin, confondait déjà Napoléon et Victor Hugo dans son roman Monorail, où son héros Damase est une de ses métamorphoses. Ce maréchal Victor que Damase prenait pour le fils du général Hugo. Il y revient dans la forteresse et la Marmaille. Des raisons plus ou moins politiques et sentimentales le conduisirent-elles à s'occuper de Napoléon ? C'est possible. Au départ, en tout cas, il se place en principe au-dessous du grand empereur. Il glorifie en lui le sommet de la nature humaine dépassée. Mais dans le tumulte régulier de sa prosodie, en même temps coulante et carrée, il écoute, ravi, la preuve de sa propre impérieuse primauté. Il fait de Hugo l'empereur des lettres de la poésie à l'image de Napoléon, empereur politique. Et bien évidemment, Audiberti, digne successeur d'Hugo, aspire lui aussi à cette impérieuse primauté. Dans La forteresse et la marmaille encore, Audiberti associe les deux images de Hugo et de Napoléon. Ce Victor Hugo que nous ne pouvons nous empêcher de voir comme le Bonaparte de Brumaire. Nous le voyons, Audiberti focalise sur Bonaparte plutôt que sur Napoléon. Le Bonaparte du coup d'État, le Bonaparte révolutionnaire, le Bonaparte qui termine la révolution. Ainsi, Victor Hugo est-il ce poète qui révolutionne la poésie comme il l'a dit lui-même, aux yeux de Auliberti. Mais Auliberti va plus loin encore. On a vu dans le poème VH, et je recite ces quelques vers que je vais voir de près. Le magique habitant du rythme inconfiscable nous décocha, vibrant dans les nuits comme un câble, le javelot Jésus, le dard Bunaberti. Pour Auliberti, Victor Hugo est le maître incontesté de la poésie, sinon de la littérature tout entière, qui s'illustre par l'alexandrin, le magique habitant du rythme inconfiscable. La métaphore guerrière, javelot, d'un côté, dard, de l'autre, est soutenue par la phonétique, ja, j'ai, et plus loin, dard, buna, au rebours de l'image douce et pacifique du Christ, qui s'oppose en cela à celle guerrière de Napoléon, de Bonaparte. Le nom de Bonaparte, transformé en Bunaberti, fait directement référence au poème éponyme de Victor Hugo dans les Orientales. C'est le général de l'armée d'Égypte qui est convoqué pour soutenir l'idée d'un jeune conquérant bouleversant les anciens monarques à la manière de Jésus-Christ, renversant les marchands du temple. C'est aussi bien sûr la jeune poésie romantique qui renverse les codes de la poésie classique. Mais c'est Hugo qui lance ses armes. C'est Hugo qui est responsable de l'image de ce Jésus et de ce Bonaparte violent. C'est pourquoi Auliberti dit à Jean Paulhan, à propos de Hugo, « J'en fais Dieu, vous savez, mais je lui dis ces quatre vérités. » Ce n'est plus Napoléon qui a été critiqué, mais celui qui a véhiculé son image mythique. Auliberti garde par-devant lui l'image d'un Napoléon enfoui dans l'enfance et questionne celle que lui a transmise Victor Hugo. Le nom de Napoléon chez Auliberti sert d'assise à la fonction du poète, notamment du poète épique pour le héros d'Austerlitz, qui demeure une référence incontournable. C'est aussi par le biais de l'auteur de la Légende des siècles qu'Auliberti forge son ambition de poète, qui se réfère alors à la seule image de Napoléon. Et pour combler le tout, Auliberti fait dire à un de ses personnages de mon oreille « Vous avez dans la tête, et je ne vous le reproche pas, Dieu, Jésus-Christ, Bouddha, Napoléon, Hugo. » Ainsi, Hugo et Napoléon sont-ils parfaitement situés dans une lignée de héros. Napoléon divinisé chez nos deux poètes est devenu l'image même de la poésie, qui est une religion dont ils se font les prêtres et les prophètes. La gloire du conquérant se confond avec la gloire à laquelle ils aspirent par le verbe. Et je conclue. Victor Hugo et Auliberti se rangent tous deux résolument sous la bannière de Napoléon depuis leur naissance et pendant toute leur vie. Un Napoléon placé sous le signe de la mystique, à qui on confère une aura religieuse, parfois même christique. Ainsi, la poésie qui dérive de Dieu s'associe-t-elle tout naturellement à Napoléon, qui devient alors l'image même de la poésie, le rêve des poètes. On a vu que le Napoléon d'Auliberti passe nécessairement par Victor Hugo. On assiste alors à une double vision de la poésie, dans laquelle les deux images de Napoléon et de Victor Hugo sont issues de la même aura céleste. Auliberti place Hugo sur le même plan que Napoléon, quand lui-même se place en égal d'Hugo. En d'autres termes, nous retrouvons notre triade du début, qui devient une trinité. Merci.